Ça, c'est bon. Hop. Bon, ben là, je viens de finir de débiter et on va aller en salle pour demander à notre formateur si notre séquence opératoire est bonne.
Bienvenue à toutes et à tous, c'est Émilie, la soifée des rêves accessibles. Je vous invite à prendre un virage à 180 degrés. Dans ce podcast, vous écouterez des parcours de reconversion professionnelle, voulus ou subis, de femmes et d'hommes qui m'ouvrent leurs portes un peu partout en France. Cette immersion est l'occasion de mieux comprendre les étapes de changement de vie et sûrement de vous livrer quelques clés loin des idées reçues qui permettent de se dire que tout est possible.
À 180 degrés.
Entamer une transition professionnelle à deux, c'est sûrement plus entraînant, ça c'est sûr. Imane Medel et Hugo Deschberry ne me contrediront pas. C'est pour un projet de vie commun que ce jeune couple a préféré troquer la blouse pour l'assise sur table. Pour ce nouvel épisode, c'est dans les Hautes-Pyrénées que je pose mon micro pour découvrir comment la formation en construction bois révèle bien plus qu'un futur métier, quand la quête de sens se poursuit aussi bien dans une charpente que dans un plancher. Bonjour Imane, bonjour Hugo.
Bonjour.
Je suis très contente de vous recevoir dans le podcast à 180 degrés. Vous êtes le premier couple en reconversion professionnelle, tous les deux en même temps. On se rencontre au sein de Lave-Pas de Tarve, où vous utilisez une machine, où il vaut mieux savoir l'utiliser au lieu de se couper les doigts.
Oui, c'est ça, oui. Il faut faire gaffe, c'est knacky comme il dit le prof. Dit knacky à l'arrivée, dit knacky au retour.
Ça donne envie de se lancer déjà. Alors vous étiez tous les deux aides-soignants, vous venez tous les deux du Gers. Comment est-ce qu'on délaisse la blouse pour la scie et la poutre en bois ?
Je pense que c'est le ras-le-bol et le besoin plutôt de faire quelque chose pour soi qui nous a poussé à se questionner et à changer de vie. Donc nous étions tous les deux intéressés par la forêt, le bois, la construction, on était quand même manuels.
Du coup ça m'a donné envie de reprendre les maths, de reprendre la trigonométrie que j'avais un peu délaissée pendant mes années d'études. Je voulais plus travailler avec mes mains qu'en suivant des ordres bêtement.
Donc vous vous êtes laissé un an de réflexion pour savoir exactement quelle direction prendre. Vous vous êtes dirigé à la mission locale qui vous a dirigé vers une conseillère Pôle emploi.
On avait besoin d'aide pour trouver déjà pour les financements parce qu'on n'a pas forcément le budget. Et moi j'ai juste une simple aide qui est la garantie jeune. Alors oui, elle nous a trouvé un endroit, enfin une formation qui était proche de chez nous. On est logé, nourri, donc c'est plutôt pas mal.
Bon, Emilie, je viens de terminer en fait la pendulaire. Avec la pendulaire, je viens de sectionner une partie de mon mur, donc ça s'appelle un montant. Ce que j'ai fait avant, c'est ce qu'on appelle l'action prédébitée. En gros, on fait une petite entaille dans le bois pour vérifier qu'on soit bien aux mesures exactes, pour pas se tromper. Et ensuite, dès qu'on est certain, on plonge la scie pour tronçonner la pièce de bois.
Et maintenant, c'est l'approvisionnement qui vous attend. Je vais peut-être vous suivre.
Allez, on y va.
Donc là, on sort. Oui, parce que savoir construire des charpentes, c'est bien, mais il faut savoir aussi s'approvisionner en bois. Ça fait partie du job, hein.
C'est ça. Et en plus, la pénurie de bois n'arrange rien, ce qui a fait augmenter les prix pour les acheteurs. Donc, il est très difficile de s'approvisionner en bois actuellement.
Donc là, on est muni de nos fiches de débit et on va chercher nos bois, on va les mesurer pour prendre le bois qu'il nous faut. Et après, on rentre dans l'atelier. On fera nos tracés et après, on va débiter. L'hélice haute.
L'hélice haute, on en a deux.
Donc 22 par 6 sur 45.
Ça, c'est pour le mur 3, c'est ça, le mur B.
Ok, alors on va voir.
Ah.
22 par 45. Alors, tu vas le mettre ? Ouais. Ouais, font toutes 22.
Ouais, font toutes 45. 22.
Ouais.
C'est à l'endroit.
Là, je prends mon mètre et je viens sur la face, sur le côté de mon bois pour voir si c'est la mesure qu'il me faut et c'est bon.
Imane, Hugo, donc vous avez postulé à l'AFPA tous les deux, vous avez passé les concours ensemble, vous avez passé les entretiens et vous revoilà pour une nouvelle vie.
Oui, ma famille était super contente parce que je suis vraiment dans une famille où tout le monde aime bricoler, où ma mère construit ses meubles, ma grand-mère restaure, elle chine, on fait les brocantes, mon père est artisan, donc c'était normal pour moi de rejoindre un peu cette filière.
Donc vous voilà engagé pour une formation de 6 mois environ. Quelle a été la principale difficulté quand vous êtes rentré en formation justement pour cette filière ?
Et moi, contrairement à la famille d'Imane, je ne viens pas d'une famille de bricoleurs. Du coup, pour moi, ça a été un énorme challenge de débarrer cette formation.
Je sais que vous avez eu une certaine appréhension, notamment sur une certaine scie.
C'est ça, oui, la scie sur table qui m'a beaucoup intimidé au début. Il n'y a pas beaucoup de protection. On est face à la scie et on a toujours peur de se couper un doigt parce qu'on ne voit pas forcément la lame. Au début, je tremblais, je ratais mes pièces, clairement, parce que si on a le malheur de bouger ne serait-ce qu'un millimètre, on a raté notre débit. Grâce aux conseils des autres et du formateur, ça va beaucoup mieux maintenant.
Et un élément non négligeable, il faut être très bon en géométrie, mine de rien, il ne suffit pas simplement de taper sur un marteau.
Et c'est ça, il faut utiliser beaucoup de formules, il faut connaître le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore sur le bout des doigts, les deux principaux théorèmes qui nous permettent de réaliser des constructions en fait, parce que tout est basé là-dessus.
Est-ce qu'il y a quelque chose de votre ancien métier qui vous est utile aujourd'hui ?
Oui, ce que j'ai appris par exemple en étant aide-soignante, c'est qu'il faut avoir une certaine position pour ne pas se casser le dos ou prendre bien ses précautions au niveau de son corps. Et ce que j'ai appris ici en étant dans la construction bois, c'est que c'est la même chose. Il faut aussi, pour porter des charges, avoir une certaine position, se baisser d'une certaine façon. On peut vraiment avoir les mêmes pathologies finalement.
On peut développer de l'arthrose, des tendinites. C'est des pathologies qui sont assez fréquentes dans ce genre de métier. Donc pour moi, je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup. C'est pour ça que je remercie quand même ce métier. Donc, qui est soignant, de m'avoir appris à utiliser ces postures-là pour moins me faire mal et pour pouvoir prendre plus soin de mon corps et pouvoir exercer peut-être ce métier quand j'aurai 60 ans, 70 ans.
Bon, mais maintenant, Émilie, vous allez nous suivre. On va débiter nos pièces de bois qu'on vient juste d'apprévisionner.
Ok, allez. Et là, on va retourner au chaud parce que là, 8h du matin, ouf.
Pour les inconvénients de ce métier, c'est qu'il faut travailler dehors, donc il ne faut pas être sensible au froid et à la chaleur parce que c'est ce qu'il nous a dit notre formateur. Travailler des fois sous 40 degrés ou moins 5, enfin, l'hiver ou l'été, c'est ce qui peut freiner beaucoup de personnes.
Ouais, il faut y penser avant de se lancer dans la formation.
C'est ça, oui. Il faut avoir l'appréhension de se dire on va travailler l'hiver sous la neige, sous la pluie.
Oh bah, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je suis pas sûre. Hein, vu comment je suis en train de perdre mes doigts.
Qui est déjà bien
ambiance. C'est sympa parce qu'il y a toujours de l'ambiance.
Il y a de l'ambiance, oui, oui. On peut mettre sa musique, on rigole, on discute. Il y a les machines en route. Ouais, c'est agréable. On est vraiment en plein. Allez, on va débiter au fond. Ça, c'est bon. Hop. Bon, ben là, je viens de finir de débiter et on va aller en salle pour demander à notre formateur si notre séquence opératoire est bonne.
Allez.
Fred, est-ce que tu peux valider notre séquence opératoire ?
Installe-toi, j'arrive. Bon, montre-moi ça. Est-ce qu'on a tous les éléments ? Études, approvisionnement, le choix des bois, le raid. Oui, ok. Le tracé. Il y a des choses que tu peux pas tracer tant que tu n'as pas fait ton débit. Hein.
Oui.
Donc là, cette étape-là, elle n'est pas au bon endroit.
Okay.
Le pré-débit, donc ça vient avec... Non, c'est dans le désordre. Là. Okay. Pré-débit, ça fait partie de ton approvisionnement. Mmh. Tu coupes des barres en créant de la cote en plus pour pouvoir faire ton débit. Donc tu as un premier tracé pour ton débit, et ensuite tu as du tracé, tu as tes occupations pour l'emplacement de tes places, de tes pièces dans le sujet.
Oui.
Ok. Okay. Donc vérification et contrôle, oui. Rembarrement, non, parce qu'on ne travaille pas sur épure.
Oui, c'est pour oui, c'est vrai.
Donc celui-là, il n'a rien à faire là.
Je vais l'enlever.
Assemblage par clouage, ok. Carrage à surveiller, pas de vérification à la sortie.
Si, ouais.
Bon, là, tu l'as un peu dans le désordre.
Ouais.
Prends-toi 5 minutes pour remettre ça dans l'ordre.
D'accord.
Une séquence opératoire, c'est essentiel. C'est ça qui te donne ton déroulé. C'est ça qui te permet de te projeter. Là, dans la découverte du métier, vous ne savez à l'heure actuelle pas le faire. Donc le fait de le formaliser à chaque fois, hein, on est d'accord, on se l'est déjà dit, ça vous permet d'avoir une vision sur ce que vous faites et de mettre les étapes dans le bon sens et surtout d'éviter de défaire, refaire. Okay. Donc il faut y revenir rapidement. Hein, dès que tu as une vision claire sur ce que tu fais, bah, effectivement tu y vas. C'est là, ce que tu fais, c'est démarrer avec un pare-brise sale.
Oui.
Bon, vu que vous n'avez pas imprimé les plans, vous n'avez qu'à récupérer ceux de Philippe qui a terminé, je pense.
Ouais.
Et du coup, on regarde ensemble les codes pour ces pièces du bientôt. Par contre, en priorité, vous rédigez les séquences opératoires.
À 180 degrés.
Frédéric Piot, vous êtes le formateur d'Iman et d'Hugo. Vous avez utilisé tout un vocabulaire qui ne parle pas forcément à ceux qui nous écoutent. Au final, c'est quoi un constructeur bois ?
Alors, un constructeur bois, c'est à la fois un charpentier, un acteur de la performance énergétique, un couvreur, un zingueur, autant de métiers qui en général sont masqués par l'appellation de charpentier. Hein, qu'on voit quelqu'un sur un toit, en général on se dit tiens, voilà un charpentier. Et pas nécessairement, il y a tout un tas d'acteurs de la toiture et de l'enveloppe du bâtiment, et c'est pour faire face à la plupart de ces cursus qu'on rentre en formation de constructeur bois.
Alors, vous-même, vous êtes un ancien artisan. Quelles sont les principales qualités qu'il faut avoir ?
Déjà, il faut avoir accès à la culture de métier, c'est important, pour pouvoir parler à ses pairs. Je pense qu'il faut être à même à la fois de se projeter dans le temps, de planifier ce qu'on fait. Il y a un savoir-être également, hein. On ne laisse pas quelqu'un travailler tout seul dans son coin au prétexte qu'on n'est pas sur la même tâche que lui. Il y a une certaine rusticité à développer également, hein. C'est un travail qui nécessite de la manutention, qui met constamment au contact avec la matière, avec le béton, avec le bois, avec la terre cuite. Et puis, c'est une profession qui s'exerce au moins partiellement à l'extérieur, en situation de travail en hauteur, et qui donc nécessite, là encore, une culture de la gestion du risque par la mise en œuvre des réponses appropriées, échafaudage. Donc, tout ça importe pour un artisan qui va rechercher un partenaire, un collaborateur.
Et on voit parmi vos stagiaires, il y en a beaucoup qui sont en reconversion professionnelle. Imane et Hugo ne sont pas les seuls. Pourquoi ils sont ici ?
Il y a des horizons extrêmement variés. Là, sur le plateau, derrière nous, il y a des gens qui sont deux fois Bac plus 5, certains qui ont des années de travail avec des gros salaires bien valorisés à Paris, dans des grosses boîtes. Il y a aussi des gens qui sont loin de l'emploi de base, qui sont les laissés pour compte du parcours scolaire. On a absolument de tout. Je dirais ce qui les réunit, c'est la quête de sens. Ils cherchent à faire des choses réelles. Ils cherchent à donner du sens à leurs existences. Hein. On a des quinquagénaires, on a des gens qui ont 18 ans. Je crois que c'est vraiment ça le point commun à toutes ces personnes. On a quelqu'un comme Jonas qui a pratiquement mon âge, il est 50 ans et quelques, et qui lui arrive du Gabon, il habite depuis une dizaine d'années en Bigorre. Son rêve, c'est de créer un pôle de compétences au Gabon, à la fois pour exploiter l'or vert du Gabon, la forêt pluviale, et pour consolider les savoirs bâtir qui peuvent exister là-bas et qui manifestement remplissent pas tous les besoins. On a Ben sur plateau qui lui avait un poste bien payé de responsable réseau dans une grosse entreprise immobilière à Paris et qui, suite au Covid, a décidé de se barrer en province et de faire un métier qui pour lui a du sens.
On va laisser Imane et Hugo plancher et puis on va les retrouver après. Ça va, vous en sortez ?
Oui, c'est bon. On a fini notre séquence opératoire. Et là, on vérifiait juste la cote du linteau. On attend plus que Fred vérifie, contrôle. Et normalement, ça devrait être bon, oui.
Imane, Hugo, dites-moi au final, quel est le but ultime de cette reconversion ?
Eh bien, en fait, à la sortie de cette formation, on a le projet déjà de travailler en entreprise pour acquérir de l'expérience et ensuite démarrer notre beau projet qui serait de construire des tiny houses dans un parc qu'on achèterait pour installer des cabanes, pour que des gens puissent venir passer du bon temps en location.
Et puis bon, on vous avoue, Émilie, que notre rêve, ce serait de s'expatrier au Canada pour les cabanes, pour tout. On souhaite avoir un projet de vie là-bas.
Ah ok, eh ben, je vous le souhaite.
Ça et ça, c'est le même point. C'est pas la peine de détailler. Hein. Okay. C'est pour toi. Hein. C'est pas un rendu scolaire. C'est voilà. Alors le pré-débit, ok, débit, tout à fait. Tracé, c'est le tracé des occupations pour l'essentiel, hein, puisque ton débit est fait. Donc on suppose que ton tracé de longueur, il vient s'intégrer entre ces deux étapes-là. Et là, tu es sur le tracé des occupations. Les occupations, ce sont les traits qui te permettent de situer les pièces entre elles au niveau de l'assemblage. Bon, bah on est déjà plus près du but, hein. Direction l'atelier. On passe du trait de graphite au coup de marteau.
Ok, ça marche.
Frédéric, Hugo et Imane nous ont livré que leur rêve ultime, c'était de lancer leur business pour éventuellement des tiny houses. Quels conseils vous pouvez donner ?
Je dirais le premier d'entre eux, en qualité d'ancien artisan, c'est de prendre leur temps pour s'installer. À l'heure actuelle, on a dans la plage des 3 ans suivant la création des entreprises une défaillance sur 2. C'est énorme, ça coûte cher à la collectivité publique, donc ne serait-ce qu'à ce niveau-là, il faut vraiment penser son projet, le dimensionner, le calculer. Rester très conscient qu'en plus de son cœur de métier à soi, on va devoir en ajouter 5 ou 6. Il va falloir qu'on travaille en qualité d'entrepreneur sur en ressources humaines. en achat, en logistique. Il faut qu'on sache vendre également, c'est important, hein, qu'on sache faire la promotion de son travail, qu'on sache établir les devis. Il faut qu'on soit à même de faire un contrôle de gestion, même sommaire. Aujourd'hui, malheureusement, dans ce secteur du bâtiment, on est loin du compte à ce niveau-là. Donc, en gros, on va pratiquer 5 à 6 métiers en plus d'une autre. Donc à partir de là, évidemment, si on est fragile déjà sur les savoirs de métier, on n'aura à l'évidence pas la disponibilité nécessaire. Et j'insiste sur la partie gestion, qui est réellement essentielle, puisque c'est pour cette raison et non par défaut de savoir-faire que la plupart des entreprises se cassent la figure dans les 3 premières années.
On n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation et merci à vous de m'avoir reçu. Au revoir.
À 180 degrés.